bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un texte qui secoue un peu les idées reçues, politique.pdf d'Éric Thézé. Le sujet, pourquoi l'action politique semble si souvent décevante, voire en échec? Et si la racine du problème était bien plus profonde qu'on ne le pense? On entend ça partout, hein. Crise de confiance, abstention record, ce sentiment que la politique est déconnectée ou impuissante. L'auteur ici, Éric Thézé, il ne fait pas que constater, non? Il propose carrément de redéfinir ce qu'est ou ce que devrait être le politique. Notre mission aujourd'hui, eh bien, décortiquer cette pensée, parfois un peu déroutante, et voir quelle lumière nouvelle elle peut jeter sur la fameuse chose publique.
C'est exactement ça. Et l'approche est assez originale, je trouve. Parce qu'elle ne cherche pas les coupables habituels, vous savez, la corruption, la soif de pouvoir, une prétendue mauvaise nature humaine. Non. Elle suggère plutôt une sorte d'ignorance fondamentale, collective, sur la mission même du politique. Et si on se trompait de définition depuis... depuis des siècles, en fait. L'auteur va même jusqu'à remettre en cause des fondations qu'on croyait solides, comme la définition de Cicéron.
Ah oui, intéressant, hein, comme point de départ. Si le problème, c'est une mauvaise définition, un mauvais diagnostic, ça change tout, en fait. Alors, vers quoi il nous emmène, cet auteur? Quelle est cette redéfinition qui pourrait, selon lui, tout changer? Tout semble tourner autour de ce concept clé, la chose publique. Mais avant d'y arriver, il pose le diagnostic, c'est ça?
Oui, parce que le constat initial, il est assez sombre et finalement assez familier. Un politique discrédité, que ce soit sous des régimes autoritaires ou même dans nos démocraties un peu fatiguées par la méfiance. D'ailleurs, l'auteur rappelle que ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas une nouveauté du XXIe siècle. Les textes antiques, que ce soit en Égypte, en Grèce ou à Rome, ils témoignaient déjà de la corruption, de la violence, de ce décalage entre les dirigeants et les peuples. Tout à fait. Mais là où certains concluent peut-être à une fatalité, eh bien l'auteur, lui, refuse cette idée. Il écarte aussi l'explication par une nature humaine qui serait foncièrement mauvaise et qui condamnerait toute politique à l'échec. Son hypothèse est ailleurs. Et si l'échec venait d'une incompréhension structurelle de ce que doit faire le politique? Et c'est là qu'intervient sa critique de Cicéron et de son fameux « l'État est la chose du peuple »,« Et res publica, res populi ».
Mais pourquoi cette définition, qui est quand même si célèbre, serait une fausse piste selon l'auteur? Qu'est-ce qui cloche pour lui dans le fait de lier d'emblée le public au peuple?
Selon l'analyse qu'il présente dans le texte, lier immédiatement la chose publique au peuple, ça nous enferme dans une logique d'appartenance, de gestion des populations, alors que la question première devrait être « de quoi le politique est-il responsable ?» Quelle est sa matière propre, si vous voulez? En se focalisant sur « pour qui ?» le peuple, avant de définir quoi la chose publique, on risque de s'égarer. Du coup, les politiques navigueraient un peu à l'aveugle, même les mieux intentionnés, faute d'une carte claire de leur territoire de compétences légitimes. Le texte insiste vraiment là-dessus. Si même des gens compétents, dévoués au bien commun, échouent ou génèrent des effets pervers, c'est peut-être que le cadre même dans lequel ils opèrent est mal défini. D'où l'urgence, selon lui, de revenir à l'essence. Qu'est-ce que cette chose publique? Quelles en sont les frontières? Et comment elle se distingue d'autres réalités?
La chose naturelle et la chose privée. Commençons par explorer cet espace naturel. J'imagine que ça va au-delà des forêts et des océans, non?
Ah oui, absolument. L'espace naturel, dans cette optique, il n'est pas défini par la présence de nature au sens biologique, mais par l'absence de règles établies, de garanties. C'est le domaine de la liberté brute, de l'aventure, du risque. Mais aussi de l'imprévu, de la création spontanée, du renouveau. L'auteur y inclut même des aspects du monde virtuel, vous savez. L'exploration hors des sentiers battus, le jeu avec les limites. C'est souvent le terreau de l'innovation artistique ou technique, ça. Une idée forte ici, c'est que cet espace naturel est indomptable, par essence. Il finit toujours par éroder les limites que l'homme tente de lui imposer. D'ailleurs, l'auteur a une vision assez radicale là-dessus. Vouloir protéger un espace naturel en y mettant des règles, comme une réserve naturelle, c'est paradoxalement le faire sortir de sa nature profonde pour le transformer en espace public. Le naturel, par définition, ça échappe au contrôle.
L'idée même de sauver la nature est vue comme une illusion. Ce serait plutôt le naturel qui, à terme, menace et redéfinit nos constructions, qu'elles soient privées ou publiques.
C'est une perspective assez déstabilisante sur notre rapport à l'environnement, c'est vrai. Passons à l'autre pôle, l'espace privé. Celui-là, on pense le connaître un peu mieux. La maison, la propriété, le jardin clôturé, la sécurité des biens semble être le maître mot, non ?
C'est ça. Le privé, c'est fondamentalement l'acte de clore, de délimiter, de restreindre l'accès pour protéger ce qui est à l'intérieur. Des personnes, des biens matériels ou immatériels. C'est l'espace de l'accumulation, de la conservation, d'une certaine sédentarité. Et là, attention, l'auteur prend le contre-pied d'une idée assez répandue. Il affirme qu'associer spontanément le privé à la liberté, c'est une erreur. La liberté au sens de l'ouverture, de l'absence de contraintes, elle appartiendrait plutôt au naturel. Le privé, lui, serait synonyme de fermeture, de limite. Bien sûr, on peut avoir besoin de la sécurité du privé pour lancer des explorations dans le naturel, créer dans son bureau par exemple. Mais l'essence du privé reste la restriction d'accès.
Mais alors, comment ce monde privé, qui est basé sur la clôture, comment il interagit avec le reste ? Si chacun reste chez soi, rien ne se passe finalement.
Exactement. Et c'est là qu'intervient la nécessité d'un troisième espace. Les biens accumulés dans l'espace privé, ils n'acquièrent de la valeur que s'ils peuvent être échangés, comparés, mis en relation. Or, cet échange, il ne peut se faire durablement et pacifiquement que dans un espace qui n'est ni totalement libre et risqué comme le naturel, ni fermé et exclusif comme le privé. Il faut un lieu commun, régulé mais ouvert, pour que les différentes scènes privées puissent interagir et échanger. C'est ce besoin d'échange qui, selon l'auteur, fait naître la nécessité d'un espace public, même du point de vue de l'intérêt privé, en fait.
On y arrive enfin. Après le naturel libre mais sans garantie et le privé sécurisé mais fermé, voici l'espace public, la fameuse chose publique. Comment l'auteur le caractérise-t-il pour qu'il ne soit ni l'un ni l'autre ?
Eh bien, il le définit comme une sorte de synthèse paradoxale des deux autres. Il est réglementé et sécurisé, oui, comme l'espace privé, mais il est par principe ouvert à tous. Un peu comme l'espace naturel, mais sans le chaos potentiel. La grande différence, c'est qu'il n'est pas défini par des biens à posséder ou à échanger, mais par des œuvres.
Des œuvres. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il entend par là ?
Des réalisations humaines, infrastructures, services, systèmes, qui sont conçus pour faciliter les échanges, la circulation, la vie en commun, sans être elles-mêmes objets d'appropriation privée dans leur usage. Pensez aux routes, aux ponts, aux places publiques, aux réseaux d'eau ou d'énergie, bien sûr. Mais l'auteur élargit beaucoup cette notion. Il inclut les langages, la langue commune, mais aussi les mathématiques, les systèmes de mesure, les bibliothèques, les musées, et aujourd'hui de façon cruciale, les infrastructures numériques, les protocoles Internet, les réseaux de base, voire les moteurs de recherche, dont il critique d'ailleurs les privatisations rampantes. Toutes ces œuvres publiques constituent l'ossature qui permet aux activités naturelles et privées de coexister et d'interagir de manière fructueuse.
D'accord, je vois mieux. L'espace public, ce sont ces voies et ces maisons communes, tangibles ou intangibles, qui permettent à tout le reste de fonctionner. Si on accepte cette définition, alors quelle est la mission précise et peut-être limitée du politique ? Si l'auteur dit que tout n'est pas politique, qu'est-ce qui lui reste à faire au politique ?
Sa mission devient alors très claire et selon l'auteur, c'est uniquement celle-ci. Concevoir, bâtir, entretenir et améliorer ces voies communes et ces maisons communes. Garantir qu'elles soient accessibles à tous de manière sûre et équitable. Assurer que chacun puisse y vivre, y circuler, s'y rencontrer, y travailler si nécessaire et surtout pouvoir en sortir librement pour retourner au privé ou s'aventurer dans le naturel. La responsabilité du politique, eh bien, elle s'arrête là où s'arrête la chose publique ainsi définie.
Là, on touche à des implications qui sont potentiellement explosives pour notre vision actuelle de l'État. Si on suit cette logique à la lettre, ça signifierait que beaucoup de ce que font les gouvernements aujourd'hui, je pense aux interventions dans l'économie privée, au système de retraite, d'assurance chômage, peut-être même l'éducation ou la santé telles qu'on les conçoit, seraient considérées comme une forme d'ingérence.
De dépassement de fonction ? C'est exactement la conclusion à laquelle aboutit l'auteur. Et il est crucial de souligner que c'est son interprétation qui découle de sa définition très stricte des sphères. Dans cette perspective, oui, des mesures comme les congés payés, la fixation d'un salaire minimum dans le privé ou la gratuité indifférenciée de certains services seraient vues comme des tentatives de réparer des problèmes sociaux en intervenant hors du champ légitime du politique, c'est-à-dire la gestion de la chose publique. Des pansements, dit-il, qui masquent le vrai problème ou créent d'autres déséquilibres parce qu'ils sortent de la mission fondamentale. Du coup, la légitimité d'un pouvoir politique, dans cette vision, elle ne découlerait plus prioritairement de son mode de désignation, élection démocratique, héritage, peu importe, mais avant tout de sa compétence effective à bien gérer la chose publique, la maintenir ouverte, sûre, fonctionnelle, l'adapter aux besoins d'échange, tout en respectant scrupuleusement l'autonomie des sphères privées et naturelles.
Et cette idée de souveraineté qui ne serait pas liée à un territoire fixe, comment ça s'inscrit là-dedans ?
C'est une autre conséquence logique, oui. Si la mission du politique, c'est la chose publique, les infrastructures d'échange, les langages communs, alors sa souveraineté s'exerce sur ses œuvres, où qu'elles se déploient. L'idée de frontières géographiques comme limite de l'État est vue, par l'auteur, comme une contamination de la pensée publique par la logique privée de la clôture. On pourrait imaginer une gestion politique d'infrastructures publiques comme Internet ou des routes commerciales qui transcendent les territoires traditionnels.
Tout cela dessine un cadre vraiment très différent. Mais l'auteur ne s'arrête pas à la théorie, si j'ai bien compris. Il propose des pistes concrètes pour rendre cette vision opérationnelle une sorte d'utopie concrète. Le premier pilier semble assez surprenant, la transmission des langages. Pourquoi est-ce si central pour lui ?
Oui, c'est un point fondamental et peut-être un peu inattendu au premier abord. Pour l'auteur, les langages sont des œuvres publiques par excellence. Ils ne sont ni naturels, ils sont construits, ni privés, ils servent à l'échange. Et il entend langage au sens très large. La langue maternelle, bien sûr, les langues de communication internationale ou communautaire, mais aussi les mathématiques, les langages informatiques. Et même ce qu'il appelle les langages des sens. Musique, art visuel, cuisine, enfin, tous les systèmes de signes qui permettent de comprendre, de créer et d'échanger. Leur transmission efficace et universelle dès le plus jeune âge deviendrait une responsabilité primordiale du politique. Pourquoi ? Parce que maîtriser ces langages fondamentaux, c'est la condition sine qua non pour pouvoir ensuite faire des choix éclairés dans sa vie, que ce soit dans la sphère privée, naturelle ou même pour participer à la chose publique. Attention, c'est différent d'une formation professionnelle spécialisée plus tard. Devenir musicien, informaticien, ça relève du choix individuel. Là, il s'agit vraiment de donner à tous les clés de compréhension et d'expression du monde.
Donner les clés pour pouvoir choisir ensuite. D'accord, je saisis l'idée. L'autre pilier majeur de cette utopie, c'est cette fameuse offre universelle de travail public. Ça ressemble à quoi, concrètement ? Ça semble être le mécanisme central pour faire fonctionner tout ce modèle.
C'est l'outil principal qu'il propose pour que le politique remplisse sa mission d'entretien et de développement de la chose publique, tout en assurant des conditions de vie décentes pour tous. L'idée, c'est que l'État ou l'entité qui gère la chose publique proposerait, via une plateforme accessible à tous, une application par exemple, à toute personne en âge et en capacité de travailler, à n'importe quel moment de sa vie, une liste de travaux publics disponibles.
Des travaux publics, c'est-à-dire quel genre de tâches ?
Des tâches concrète, au service direct de la chose publique. Entretenir les routes, les parcs, les réseaux, participer à la gestion des bibliothèques ou des musées, contribuer à des projets de développement d'infrastructures numériques publiques, aider à l'organisation de services publics. Des tâches adaptées à l'âge, aux compétences, aux envies aussi de chacun. Et ce travail public aurait des caractéristiques très spécifiques selon l'auteur. Premièrement, l'offre serait universelle, mais l'acceptation serait totalement optionnelle. Personne ne serait obligé de le faire. On resterait libre de préférer des activités privées, travail salarié, entrepreneuriat ou naturel, création, exploration, repos. Deuxièmement, ce travail serait rémunéré. Le niveau de rémunération d'un quantum de base, une unité de travail, serait calculé pour couvrir les besoins essentiels. Un logement décent dans un parc public accessible, la nourriture, l'habillement, les soins de base, l'accès à la formation et à la culture. Troisièmement, le temps de travail serait limité. L'auteur parle d'un quantum de base, une unité de temps courte, il suggère par exemple 2 heures par jour ou peut-être 2 jours par semaine, ce qui laisserait la majeure partie du temps disponible pour d'autres activités choisies. Et quatrièmement, ce serait adaptable. On pourrait choisir de faire plusieurs quantas si on le désire et si le besoin en travail public existe. Pour rendre ça attractif face au travail privé, la rémunération augmenterait plus que proportionnellement. L'auteur donne un exemple où 5 quantas seraient payés 9 fois le quantum de base. Et aussi, un quantum supplémentaire serait un droit automatique pour toute personne qui prend soin d'une autre, un enfant, une personne dépendante, ce droit pouvant d'ailleurs être partagé.
Alors, si je récapitule pour être sûr de bien saisir, l'idée, ce n'est pas juste de donner un revenu minimum comme ça, mais de l'adosser à une contribution volontaire à la collectivité. En gros, tu as besoin de vivre, L'État te garantit de quoi couvrir tes besoins essentiels en échange d'un petit volume de travail utile à tous, que tu es libre d'accepter ou non. Et si tu veux plus, tu peux travailler plus, soit pour le public, soit dans le privé, qui devient alors un choix vraiment libre et non plus une nécessité absolue pour survivre. C'est ça l'idée ?
C'est tout à fait ça. Le but est double en fait. D'un côté, assurer l'entretien et le développement de la chose publique grâce à cette force de travail disponible et volontaire. Et de l'autre, garantir à chaque individu la possibilité de subvenir à ses besoins fondamentaux et de disposer de temps libre significatif sans que l'État ait à intervenir massivement pour réguler le marché du travail privé, les salaires, les conditions, les congés. L'existence de cette alternative publique décente changerait radicalement la donne pour les activités privées. On passerait d'une opposition un peu subie travail-loisir à une alternance choisie entre travail public, activité privée et activité naturelle.
C'est un changement de paradigme complet, hein ? Mais l'auteur reconnaît-il des difficultés, des zones d'ombre dans ce tableau ? Tout ne peut pas être si simple, j'imagine.
Effectivement, il aborde ce qu'il appelle les « problèmes aux frontières ». Que faire quand une activité privée a des conséquences négatives sur l'espace public, comme la pollution, par exemple ? Comment gérer des domaines complexes comme la santé, qui peuvent toucher au public, IGM, épidémie, au privé, soins personnels, et même au naturel, la vulnérabilité du corps ? L'auteur admet qu'il n'y a pas de réponse toute faite et qu'une forme de jurisprudence basée sur les principes définis serait nécessaire pour trancher ces cas limites, en cherchant toujours à préserver la distinction et l'autonomie des sphères.
Et la question éternelle, j'allais dire. Même si le politique est ainsi redéfini et limité, comment s'assurer qu'il n'abuse pas de son pouvoir, qu'il ne devienne pas oppressif ? Est-ce que la limitation de sa mission suffit à le rendre inoffensif ?
C'est la question cruciale, oui, de la protection contre la violence potentielle du pouvoir lui-même. La réponse classique que l'auteur reprend, c'est la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. Mais il y ajoute d'autres scènes de pouvoir, économiques, médiatiques, voire religieux ou scientifiques selon les contextes. Et il va plus loin que la simple idée de contre-pouvoir qui se neutralise mutuellement. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est son interprétation de cette séparation. Il la voit comme la création de différentes scènes distinctes, chacune avec ses règles, ses acteurs, ses enjeux propres. La richesse, la valorisation d'une société, viendrait de la superposition de ces scènes, c'est-à-dire de leurs interactions complexes, de leurs frottements, des passages de l'une à l'autre.
D'accord. Cette superposition de scènes, si on devait le dire plus simplement, c'est un peu comme dire qu'une société saine a besoin que différents jeux de pouvoir, la politique, l'économie, les médias, la justice, se déroulent en parallèle avec une certaine autonomie, et que c'est de leurs interactions, parfois conflictuelles d'ailleurs, que naît la valeur.
C'est une bonne façon de le résumer, oui. La valorisation économique, sociale, culturelle, émergerait de cette complexité, de cette polyphonie des pouvoirs, si on veut. A l'inverse, la concentration du pouvoir quand une seule personne, une famille, un parti ou même une seule logique, par exemple purement économique, domine toutes les scènes, ça conduit inévitablement, selon l'auteur, à une perte de valeur, à un appauvrissement général. Et pour maintenir son emprise malgré cette dévalorisation intrinsèque, ce pouvoir concentré n'aurait alors d'autre choix que de recourir à la force, à la violence, institutionnalisée, surveillance généralisée. Camp, élimination des opposants. La conclusion est claire, le politique doit absolument rester dans sa sphère publique limitée et accepter de coexister avec les autres pouvoirs pour permettre cette superposition créatrice.
Bien, tentons de synthétiser cette exploration assez dense des idées d'Éric Thézée dans politique.pdf. On a affaire à une proposition radicale quand même. Repenser le politique en le recentrant exclusivement sur la gestion de la chose publique. Ce qui inclut les infrastructures physiques et virtuelles, les services communs essentiels et même la transmission des langages fondamentaux. L'objectif affiché, rendre l'action politique enfin efficace en la cantonnant à son domaine légitime et par là même libérer les énergies dans les sphères privées et naturelles pour favoriser une valorisation globale née de leurs interactions.
C'est une excellente synthèse, oui. Et les trois piliers de cette utopie concrète, comme l'appelle l'auteur, seraient donc 1. Définir clairement et circonscrire l'action politique à la seule chose publique, en la distinguant rigoureusement du privé et du naturel. 2. Gérer activement cette chose publique pour garantir à tous la possibilité d'y vivre, d'y circuler et surtout d'en sortir librement. L'outil clé pour cela serait cette offre universelle de travail public, optionnelle et rémunérée pour couvrir les besoins essentiels. Et 3, remplacer notre vision un peu binaire travail-loisir par une fluidité choisie entre un travail public limité et contributif et des activités privées ou naturelles diverses entreprendre, créer, apprendre, explorer, se reposer. Et pour finir, la pensée que l'auteur laisse un peu en suspense, celle qui doit nous faire réfléchir. Il suggère que ce modèle, qui peut sembler utopique aujourd'hui, pourrait devenir une perspective étonnamment pertinente, voire une nécessité, à l'issue des crises que nos systèmes actuels pourraient bien engendrer. Des systèmes qui, selon lui, brouillent les frontières entre public et privé, ou les opposent stérilement, et qui empêchent ainsi cette fameuse superposition des scènes créatrice de valeur. La question provocatrice qui demeure est donc, en acceptant de limiter drastiquement le champ d'action du politique, est-ce qu'on pourrait, contre toute attente, le rendre plus légitime, plus efficace pour répondre aux besoins collectifs fondamentaux et moins enclin à la dérive autoritaire, au lieu de le voir s'épuiser et se discréditer dans sa vaine tentative de tout vouloir contrôler ?
Voilà une perspective qui bouscule, c'est sûr, et qui laisse vraiment matière à réflexion sur la nature même de l'organisation de nos sociétés. Merci beaucoup d'avoir décortiqué ces idées complexes avec nous aujourd'hui. Et à très bientôt pour une nouvelle analyse.